Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine.
Mesdames, messieurs, la terre ou le sol, les institutions politiques ne sont pas les seuls facteurs ou agents qui forgent l'histoire ou l'âme d'un peuple. Une autre et plus auguste institution agit avec plus de puissance, l'Église ou l'institution religieuse. C'est que celle-ci façonne, détermine par le dedans, pénètre plus avant dans la vie intérieure de l'homme. Le fait Église tient une telle place dans l'histoire du Canada qu'on ne saurait l'en exclure sans rendre cette histoire inexplicable. Presque tout ce qu'il y a de distinctif dans l'ancien Canada, écrit M. William Barrett Monroe dans ses Crusaders of New France, se rattache d'une manière ou d'une autre au catholicisme. Qu'a donc apporté l'Église à la colonie? Elle lui a d'abord fourni un clergé d'une certaine qualité, clergé que par une faveur exceptionnelle de la Providence, on dirait trié sur le volet. Son premier bonheur est d'échapper au mal qui ronge alors le clergé de la métropole, l'infection des cadets de famille envoyés dans les ordres d'autorité paternelle. Prêtres du séminaire de Québec et prêtres du séminaire de Montréal ont été mêlés au mouvement de réforme qu'a eu pour maître spirituel en France Vincent de Paul, Ollier, Condrin, Bérulle. Quelques-uns ont passé par les plus célèbres des écoles ascétiques du temps et continueront ici d'en suivre et d'en propager la spiritualité. Dans le groupe des religieuses et religieuses, la plupart sont venus au pays attirés par des désirs héroïques d'apostolat. Quelques-uns, et c'est le cas en particulier de l'Ursuline Marie de l'Incarnation, se rattachent à l'école mystique de France et y figurent en première place. D'ailleurs, une insigne particularité suffit à distinguer les fondateurs de l'Église au Canada. Presque tous sont aujourd'hui des candidats à la béatification. Faut-il indiquer qu'une autre particularité va singulièrement favoriser l'action de ce clergé? Ce sera encore l'un de ses bonheurs d'habiter une colonie sujette, à vrai dire, à rien d'autre que des impôts indirects et payés par tous. N'ayant rien ou si peu que rien de la classe des privilégiés ou du clergé féodal, il sera facile au clergé de la Nouvelle-France de se tenir près du peuple. Il recevra des gratifications et des terres en fief, mais les gratifications ne couvrent jamais qu'une partie des frais qu'il encourt pour ses tâches sociales, et les seigneuries, bien incultes, bien à faire valoir, vont moins l'enrichir que l'associer de façon méritoire à l'établissement du pays. Que ne pas attendre d'un tel personnel d'Église? Il vaudra à la Nouvelle-France cet autre bienfait d'un catholicisme d'une rare essence. La colonie a vraiment pris naissance, il est peut-être bon de s'en souvenir, entre 1660 et 1680, époque où dans le royaume, la réforme catholique produit ses plus beaux fruits. Le catholicisme français vient de sortir victorieux de la Renaissance et de ses courants troubles. Il en a assimilé tout ce qu'il en a purifié. Il vient aussi d'éliminer le protestantisme. Il a donc pu se relier aux sources les plus saines de l'âge médiéval. Voilà bien le catholicisme de choix qui passera au Canada avec les fondateurs de son Église. Catholicisme de vieille lignée, réformé, enrichi par l'épreuve et par un généreux ascétisme. Ici comme là-bas, la vie religieuse va s'épanouir sous le triple aspect d'une force intellectuelle, sociale, mystique. Action en profondeur, ce pourrait être le premier trait à relever dans l'histoire de cette jeune Église. Les circonstances historiques, il faut en convenir, l'y ont aidé. Elle accomplit son travail dans une atmosphère on ne peut plus favorable. L'historien n'exagère rien qui définit le climat moral de la Nouvelle-France vers 1660 comme un climat d'apostolat. Serait-ce en vain que les plus hautes autorités et par les documents les plus solennels, auraient placé au premier plan dans l'œuvre coloniale l'intention missionnaire. Champlain le proclamait de son temps s'il avait choisi de s'exposer presque toute sa vie aux ondes impétueuses de l'océan. Il avait fait par le désir de faire fleurir dans les nouveaux mondes le lys avec l'unique religion catholique, apostolique et romaine. Citons encore ces quelques lignes de l'acte d'établissement des centres associés qui sont de la main de Richelieu. Établir colonie afin d'essayer, avec l'assistance divine, d'amener les peuples qui y habitent à la connaissance du vrai Dieu. les faire polir et instruire à la foi et religion catholique, apostolique et romaine. Combien alors, parmi les plus grands et parmi les plus humbles, ne traversent la mer qu'avec des ambitions apostoliques? C'est le lieu de rappeler encore une fois la fondation de Ville-Marie et les fins expresses de la fondation. Ce serait aussi le lieu de rappeler le vœu si émouvant émis par les Jésuites en 1635 et bientôt renouvelé par les colons pour obtenir la conversion de ce pays et la conversion des pauvres sauvages qui l'habitent. L'atmosphère de la colonie à ses débuts, nul ne l'a mieux définie que le père Vimont dans cette petite phrase des relations. Il semble que la résolution de se donner entièrement à Dieu naisse avec la pensée de s'établir en la Nouvelle-France. L'Église rencontra cet avantage encore appréciable de travailler sur un peuple d'une seule foi. Ainsi en a décidé Richelieu. Les 100 associés ont reçu l'ordre de ne peupler la colonie que de naturels français catholiques, consigne sévèrement exécutée jusqu'à la fin du régime. Elle le sera avec une vigueur accrue après la révocation de l'édit de Nantes, alors que le régime de la tolérance à l'égard des protestants prend pratiquement fin dans le royaume. Sans discuter le bien fondé de cette exclusion, inspirée de motifs politiques autant que religieux, retenons qu'elle assure à la colonie l'homogénéité religieuse. Homogène, le peuple colonial le sera pareillement dans sa composition humaine. L'action de l'Église, haute circonstance à noter, n'aura pas à s'exercer sur un peuple constamment bouleversé, renouvelé par l'immigration. Après 1672, l'immigration se ralentit au point de ne plus guère altérer le noyau originel. Ce noyau, bel et bien formé, ne se développera désormais que de son propre élan de vie. Les habitudes, les traditions chrétiennes implantées par l'Église auront donc toute facilité d'imprégner profondément les âmes et de se transmettre aux générations successives. L'action en profondeur de l'Église, des statistiques irrécusables sur la haute moralité de cette génération pionnière, sont là pour l'attester. Un témoignage non moins éloquent nous viendrait du grand nombre d'âmes d'élite qui parvinrent aux états spirituels les plus élevés. Floraison qui s'épanouit non seulement dans le clergé, dans les communautés d'hommes et de femmes, mais dans le monde laïque, parmi les grands et les gens du peuple, et jusque parmi les convertis indigènes. Comme la vieille France, la nouvelle connut elle aussi son âge mystique. L'œuvre de l'Église frappe davantage naturellement par la variété des domaines où elle se manifeste. À peine arrivée au Canada, tout de suite, elle s'y monte armée, équipée pour ses tâches politiques. On dirait même que l'organe précède le besoin. Comme toute Église d'ancien régime, elle s'acquitte éminemment de deux services, le social proprement dit et le scolaire. Elle prend entièrement sur soi l'hospitalisation. Dès 1639, Québec possède son hôtel Dieu. Ville-Marie se fonde 3 ans plus tard dans l'esprit de la Dauversière autour d'un projet d'hôpital. Bienfaisance opportune dans un pays trop dépourvu de médecins, souvent en état de guerre, en proie de fréquentes épidémies apportées par les vaisseaux de ce temps-là, vrai nid d'infection. Dans le domaine social, la colonie doit encore à l'Église ses premières cellules de cohésion. En première ligne, son type de famille. Toutes les inquiétudes sont permises sur le sort de cette institution fondamentale quand on songe à la façon dont se bat alors l'ordre de mariage dans les 2 ou 3 semaines qui suivent l'arrivée des vaisseaux chargés de filles. Puis, que pouvaient bien devenir les jeunes foyers dans leur isolement au bord du bois, loin du prêtre, privés d'un service religieux régulier. L'Église intervient par son école des mères de Marguerite Bourgeois et surtout par une institution bientôt étendue à la colonie entière. C'est en 1663, remarquons la date, que Mme Daibou fonde l'Association de la Sainte Famille et précisément pour la réforme des ménages. Si les idéaux comptent pour quelque chose dans la vie d'un peuple, les foyers chrétiens ne s'établissent pas sans fruit sous l'égide de la famille de Nazareth, surtout s'ils voient cette famille comme la chose se produira, une dévotion vivante en font même l'une des plus chères du pays. Bénie, reprise par Mgr de Laval, qui lui donne ses constitutions, l'Association de Mme Daibou fournit à la famille canadienne les 2 bases d'où elle tirera sa force et sa grandeur, le culte de l'enfant et une formule idéale d'éducation. L'établissement d'une cellule sociale plus large, plus puissante, pressait. Dans sa géographie humaine, la colonie de ces années 1660-1670 se présente sous l'image d'une inquiétante dispersion de familles. Chacun s'est établi au gré de la nature ou de son caprice, sans toujours se soucier d'un prochain voisinage. Entre les 3 postes de Québec, des 3 rivières de Ville-Marie il s'en faut que la colonisation ait accompli la jonction des fermes. Pour faire la cohésion sociale, ramener ces menus groupements à l'unité, l'on aperçoit bien l'institution seigneuriale et l'autorité politique, mais la première, sur trop de points, se montre souvent inactive, et la seconde, le plus souvent trop éloignée, et de mailles encore trop lâches, en serre mal la population. Heureusement, l'Église est là, qui va jeter dans la dispersion paysanne les premiers dessins du cadre paroissial. Les missionnaires ambulants, chargés de leur chapelle portative, ont semé le long du fleuve les germes de la future institution. Pour une messe, une prédication, pour la bénédiction des mariages ou des tombes, pour le baptême des nouveaux-nés, ils ont groupé les colons, tantôt dans la maison d'un défricheur, tantôt au jour de beau temps près d'une chapelle de feuillage. Ce sera l'embryon de la paroisse. Le missionnaire, qui ne passe d'abord que tous les 3 ou 6 mois, finira par passer plus souvent. À la chapelle en feuillage émouvant succédera la chapelle stable et en bois. À celle-ci, l'église en pierre avec curé résident. De ce jour, la paroisse est née. Groupement de colons reliés à un clocher. L'une après l'autre, les missions s'achemineront vers ce type de société. À son tour, la paroisse surpeuplée créera par prolifération d'autres paroisses. Elles sont déjà 5 en 1659. Enfin, de l'ensemble des paroisses naîtra le vicariat apostolique, puis bientôt le diocèse, qui rattache le petit paysan du Canada à la vaste famille de l'Église universelle. Où l'œuvre de l'Église paraît non moins hâtive et admirable, c'est dans ses entreprises scolaires. Ici encore, l'institution devance presque les besoins. En 1635, la population sédentaire s'élève à peine à 200 personnes. Pourtant, cette année-là, les jésuites ouvrent à Québec leur petite école et y fondent leur collège. 4 ans plus tard, c'est au tour des Ursulines d'ouvrir leur couvent. En 1657, Marguerite Bourgeois enseigne à Ville-Marie dans son étape de pierre. En 1661, Monseigneur de Laval envoie aux Trois-Rivières des jeunes personnes pour prendre soin des petites filles en attendant qu'on y puisse faire passer des Ursulines. C'est encore à la même époque qu'au moyen de séminaires pour garçons et filles, longtemps d'européaniser une élite indigène. Œuvre éminente que l'œuvre de l'Église en Nouvelle-France et qui a pris tant de place qu'elle a fait parler de théocratie. Y a-t-il lieu de prononcer ce grand mot, mot incorrect, si l'on sous-entend un régime administratif ou politique d'essence ou de caractère religieux, où l'Église, s'arrogeant tous les pouvoirs, aura gouverné de haut, même le temporel? Certes, dans l'esprit des chefs politiques de la Nouvelle-France, la chose n'est pas niable. La religion a tenu la première place. Les saints associés, par exemple, ont énoncé cette maxime d'État. Nous avons appris, et non pour règle certaine, que pour former le corps d'une bonne colonie, il faut commencer par la religion. Elle est en l'État, comme le cœur à la composition de l'homme, la première vivifiante partie. Sous l'empire de cette maxime, la colonie eut son budget du culte et son budget des missions. Grande sera l'autorité du clergé. Elle s'exercera jusque dans la politique. Il lui arrivera, par exemple, lors de la controverse sur la vente de l'eau de vie aux sauvages, de résister énergiquement aux gouvernants. Dans cette question mixte où la morale intervenait, le clergé outrepassait-il ses droits? Le supérieur des jésuites fait partie des premiers conseils. Monseigneur de Laval fait partie du conseil souverain de 1663. À lui, au gouverneur, appartient même conjointement le choix des autres membres de cet organisme gouvernemental. Mais là encore, s'agit-il d'usurpation de l'Église ou de privilèges concédés par le souverain? S'il s'était mieux souvenu des mœurs et coutumes de l'époque, beaucoup d'historiens se seraient épargnés de ces vaines déclamations. La participation d'ecclésiastiques au Conseil de l'État est à telle chose si inouïe sous l'Ancien Régime. L'on n'est pas non plus excusable d'ignorer que dans les États catholiques et particulièrement en France, l'État est bien aise de se décharger sur l'Église du ministère de l'Enseignement et de l'Assistance publique. Ces choses si accoutumées qu'elles vont de soi. Gonzague de Reynald, que je ne m'excuse pas de citer encore une fois, a pu écrire « L'Église au XVIIe siècle, c'est le gouvernement social de la France. L'Église est aussi un gouvernement intellectuel, tandis que l'État n'en est que le gouvernement politique. L'Église, en Nouvelle-France, n'a fait qu'assumer les mêmes fonctions. Qui donc et quoi donc eût pu la remplacer? »
Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Goulou, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Un autre cours vous sera donné dimanche prochain, à la même heure et au même poste.